Moi, un homme qui me dit « ta place est dans la cuisine », moi, j'ai tendance à lui dire « et toi, mon gars, ta place, elle est nulle part ».
Je pense que les femmes, en général, la plus grande insécurité, elle est au sein de la maison. Hein.
Ou un monsieur qui vient et qui me dit « ah, c'est vrai que tu te maquilles pas, toi, mais t'es une fleur, t'es comme une fleur sauvage, je sais plus quoi ».
J'ai l'impression que je suis un intrus, quoi, puis avec des hommes. Oh, une femme qui rentre, les hommes, ils vous diraient qu'ils n'ont jamais vu de femme. Non, mais c'est vrai, c'est ça.
Se faire insulter, se faire traiter. Oh, mais c'est que des mots. Mais les mots, c'est extrêmement grave.
Une fille, ça ne fait pas ce qu'elle veut. Une fille, ça ne fait pas ce qu'elle veut.
Meuf 3. Un documentaire de Louise Bréon, Basma Nasser et Isota Manfrin. Une production Making Waves pour la ville de Bobigny.
Je m'appelle Marine Durja, j'ai 42 ans et je suis médiatrice sociale à la ville de Bobigny.
Moi, je m'appelle Fadila Lawadi, je suis agent d'accueil donc à la mairie de Bobigny et depuis plus d'un an et demi à peu près maintenant.
Je m'appelle Cécile Laurin, je suis agent d'entretien à la ville de Bobigny, j'ai 49 ans.
Je suis Madame Traoré Maïmouna, j'ai 35 ans, je suis donc intervenante sociale au commissariat de Bobigny.
Je m'appelle Naïma Boukaouma, je suis responsable de l'agence postale communale de Bobigny.
Je m'appelle Victoire Perrin, j'ai 33 ans. Je travaille à la ville de Bobigny depuis 2 ans et demi en tant qu'écrivaine publique.
Donc je m'appelle Karima Adraoui, j'ai 52 ans, je suis ATSEM. Je travaille à l'école maternelle de l'Aune.
Je m'appelle Morgane Linglet-André, j'ai 35 ans et j'occupe à la mairie de Bobigny le poste de directrice générale adjointe des services.
Hôtel de ville de Bobigny, maison de la culture. Hôtel de ville de Bobigny, maison de la culture.
Bobigny, bah c'est une... les gens se connaissent tous. C'est vraiment incroyable à quel point, je sais pas, mon collègue, quand il sort, il va dire bonjour peut-être à 50 personnes.
Bobigny, en quelques mots, grosse population, beaucoup, 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 diversité, interculturelle. Vous avez tous les pays à Bobigny.
Depuis mon arrivée de l'Algérie, j'habite Bobigny et oui. Je suis balbinienne d'adoption, on va dire.
Et justement, c'est agréable de travailler avec toutes ces communautés. Je trouve qu'on est quand même assez soudés.
Bobigny, c'est un monde à part.
Qui est divers, qui a une richesse multiculturelle. Enfin, c'est aussi ultra intéressant, ultra enrichissant, en fait.
Bobigny, la ville de la mixité, la ville des différences.
Je sais que cette ville, il y a des grands problèmes de sécurité.
C'est une demande forte des habitants, la sécurité.
C'est pas le monde des bisounours ici. Hein.
Ma fille, elle dépose sa voiture et il lui casse sa voiture tous les 4 matins. Vous travaillez, vous vous saignez pour payer votre crédit de la voiture. Et ben on vient, on va vous la casser. Et voilà, ça c'est ça qui me... Je trouve ça désolant. Donc, mais sinon, je me sens pas en insécurité. Je me sens en sécurité. J'ai pas peur de venir travailler sur mon travail ou alors aller chez moi ou d'aller au Leclerc faire mes courses, vous voyez. Mais je sortirai pas, je vais vous dire 21h, non, c'est pas possible.
Je comprends tout à fait. On a mené avec la mission de droits des femmes des marches exploratoires où on s'est mis entre guillemets dans la peau de ces femmes. Donc on a parcouru le territoire de nuit. Et effectivement, je comprends ce sentiment d'insécurité. Je le vis pas puisque je n'habite pas cette ville-là, mais il y a vraiment des endroits où la place des femmes n'est pas pensée en termes de luminosité, d'accès. Et en plus, on a un urbanisme en dalle, donc où parfois on n'est pas au contact des voitures et donc on peut se retrouver très seul au milieu des tours et ça peut être effectivement source de stress.
À Bobigny, bah c'est vrai qu'il est extrêmement triste hein, l'espace public à Bobigny. Enfin, il y a très peu de lieux chaleureux. Il est peu occupé et quand il est occupé, c'est par des hommes.
Le seul café qui existe, c'est un peu des cafés tabac et effectivement, il y a une très faible présence féminine qui est. Donc effectivement, elles vont peut-être pas oser aller dans le café parce qu'elles vont pas se sentir à l'aise.
Moi aussi, quand je rentre là-bas pour faire recharger ma carte de transport, j'ai l'impression que je suis un intrus, quoi, puis avec des hommes. Donc je fais vite et je repars vite.
Moi, généralement, quand je veux prendre un verre avec ma fille ou avec des amis, ben, on ne traîne pas à Bobigny. On va ailleurs. On va sur Paris. Il n'y a pas d'établissement, on va dire, mixte. Quand on passe devant un bar, il n'y a que des hommes.
La manière dont les hommes regardent, parlent, quand on vit, c'est quotidien, c'est extrêmement pénible.
Des gens dans la rue qui viennent, encore il n'y a pas longtemps, un monsieur qui me dit, que je connais, à qui je dis bonjour. Et je suis avec un collègue, il arrive et il me dit, ah là, mais qu'est-ce que t'es jolie. Je te l'ai dit au moins 200 fois, non? Et puis il s'en va comme ça. Et en fait, je ne comprends pas le principe, je ne vois pas l'intérêt, je ne sais pas quoi répondre. En fait, je suis toujours démunie dans ce genre de situation. Je ne sais pas quoi répondre. Je n'ai pas envie de dire merci parce qu'en fait, je n'ai rien demandé. En même temps, quand on ne dit pas merci, en général, les gens disent « bah tu pourrais dire merci, comme je te fais un compliment ». Je ne sais pas quoi répondre à ça. Et ça, vraiment, c'est tout le temps. Tout le temps. Et vraiment, c'est juste fatigant.
Comment je vais être vue, finalement? Est-ce que je vais passer pour une femme facile? Est-ce que je serai harcelée? Est-ce qu'il y aura des remarques? Oui, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ici? Le seul endroit, je dirais, aujourd'hui, qui est capable d'accueillir les hommes et les femmes, c'est le restaurant Dream Grill. C'est le seul endroit où je me sens en sécurité et que je peux boire un verre avec mes collègues sans être importunée.
Je sais qu'il y a de l'insécurité dans la ville, hein, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose du tout qui me fait peur, en fait. Moi, la seule fois dans ma vie où je me suis faite agresser, c'est dans les beaux quartiers de Paris. Mais moi, je reçois aussi plein d'habitants hein, qui ont des problèmes de sécurité, donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, loin de là. Et que vivre ici au quotidien, c'est franchement différent que de venir pour travailler et rentrer chez soi après.
Quand il y a des personnes qui arrivent pour la première fois ici, des fois on a « Oh, j'ai trois belles femmes à moi tout seul, j'ai de la chance ». On a ce genre de commentaires.
Je vous dis honnêtement, si je me suis pris la tête dans une journée avec quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, moi, j'habite Bobigny et lui il habite Bobigny, moi, je vous dis honnêtement, si jamais il m'attrape dehors, on ne sait jamais quoi. Ça peut arriver.
On a des agressions, on a des insultes par des usagers mécontents. Hein. Ça arrive souvent. Moi, samedi dernier, j'étais agressée par une personne et le lundi suivant, ma collègue, pareil, par la même personne.
Au niveau de l'accueil, un monsieur s'est présenté pour une problématique. Et ce monsieur, donc déjà, quand on arrive au commissariat, en général, c'est pas pour des bonnes choses. Donc ce monsieur déjà arrive énervé. À l'accueil, il se retrouve face à une femme. Alors, lorsqu'on lui explique que par rapport à cette problématique, on peut pas, ça ne nous concerne pas, bah, cette personne va vite s'énerver parce que je suis une femme. Et c'est là où un collègue va entendre la situation, va se présenter à l'accueil. Et là, on voit que la personne, le requérant, change de ton. C'est là qu'on se rend compte, c'est parce que je suis une femme qui me parle comme ça. Mais il y a des hommes qui ne supportent pas que, d'avoir une femme qui leur tient tête, tout simplement.
On a des personnes qui arrivent ici et qui se dirigent directement vers mon autre collègue parce qu'on n'a pas la même couleur, lui et moi. Hein. Et oui, sur le coup, on ne se comprend pas aussi, mais c'est moi qui fais la caisse aujourd'hui. Pourquoi ? Mais il est obligé de revenir à la caisse parce que c'est moi. En fait, on le comprend dans la manière de répondre, dans le regard qu'il a envers nous. Parce que c'est bizarre dans le sens où quand une étrangère avec les yeux verts et qu'elle a un accent, on trouve ça sexy. Mais nous, arabes, musulmanes, vous avez un accent. Hein. Vous êtes une couscous boulette. On ne va jamais dans l'affrontement. Mais on le fait vraiment avec diplomatie, avec le sourire. Et c'est finalement le sourire qui tue ces personnes-là.
En fait, la plupart du temps, dès qu'on leur montre qu'on n'a pas peur, ces hommes-là, ils baissent la tête, ils sont tout penauds.
On a le cas qui se trouve donc à la mairie du Chemin Vert, service où il y a le logement. Donc, on a des hôtesses, donc agents d'accueil, mais il y a un homme avec eux. Donc, du coup, c'est différent. Quand les usagers ils arrivent, ben, ils ne vont pas se permettre de rester la voir parce qu'il y a un homme. Et puis, lui, il sait bien les cadrer. Nous, ici, on n'est que des femmes. Et c'est vrai que ça aurait été bien si on avait un homme. Moi, je sais que quand j'étais agent d'entretien, à mon époque, il n'y avait pas d'hommes. Là, ça commence à embaucher des hommes, mais ce n'est pas pareil. Parce que vous, vous êtes une femme, donc il faut nettoyer à fond, il faut être comme ça et tout. Et quand c'est un homme et que vous avez une chef femme, bah, elle va lui parler autrement. C'est plus cool. Oh, mais c'est pas grave. Mais vous, vous êtes obligé de tout faire. Lui, non, c'est pas grave, bah, vous comprenez. Bah, vous, vous allez faire les trois classes à fond, plus les préaux, plus ceci, cela. Et lui, il n'aura même pas... Oh, il va faire une classe, c'est suffisant. Lui, il va demander une journée, tel jour, oui, il n'y a pas de problème, ça sera accordé. Vous, vous allez la demander parce que vous avez un rendez-vous pour votre enfant... rendez-vous médical, ah ben non, vous pouvez pas ce jour-là.
Alors, je pense que globalement, dans ma carrière, j'ai été plutôt chanceuse. On m'a pas trop ramenée à ma condition de femme. Alors, je sais pas si c'est aussi parce que j'avais les diplômes qui faisaient que, globalement, on m'a pas trop méprisée. J'ai l'impression que quand on dit qu'on a un bac plus 5, voire un bac plus 6, le mépris, il est moins facile de la part des personnes en face. Juste le fait d'être une femme, ça leur fait se sentir supérieure. Je pense que le fait d'être envoyée toujours à son physique, ça c'est très typique d'une femme.
J'ai quand même eu quelques petites remarques au cours de ma carrière dont je me serais bien passée, un peu sexiste, pour en citer une à titre d'exemple, au moment de mon recrutement sur ce poste de directrice générale adjointe. Donc il y a quelques années, on m'a quand même rapidement fait la blague de qu'on espérait que je tombais pas enceinte bientôt. Donc ça, c'est une remarque qu'on ferait difficilement à un homme.
Je pense que la formulation n'est peut-être pas tout à fait adaptée. C'était la question...
Souvent, les hommes ont une prise de parole beaucoup plus facile et longue que les femmes. C'est un fait que j'ai remarqué en réunion. Les hommes parlent plus, les hommes parlent souvent en premier. Donc j'estime qu'il est de mon rôle de... veiller à ce que la répartition de la parole entre hommes et femmes en réunion soit à peu près équitable, et en tout cas que les hommes ne mansplainent pas trop en réunion.
Par rapport à mon dernier travail en fait, que je faisais, pendant les réunions, en fait, nous, on était obligés, pour se faire entendre, de parler agressivement.
Quand il y a un collectif, la première personne qui va prendre la parole, sans regarder s'il y a quelqu'un d'autre autour de lui qui veut prendre la parole, ça va souvent être un homme. Et les prises de parole des hommes sont beaucoup, beaucoup plus longues que celles des femmes en réunion. Donc, je ne sais pas s'ils ont moins d'esprit de synthèse, mais en tout cas, ils osent plus prendre la parole et ils vont peut-être être légèrement moins attentifs si, dans le collectif, une femme veut prendre la parole.
Oui, je parle tout doucement, oui, j'essaye de respecter tout le monde. Ben, on ne nous écoute pas. Et là, on prend un ton agressif, plus agressif, et là, on nous dit mais, vous pouvez vous exprimer calmement, hein. On n'est pas là pour se battre. Donc, quand on parle tout doucement, bah, on nous dit, on nous fait la remarque que, mais il faut donner un coup sur la table, hein. Il faut se montrer, il faut parler fort, il faut se faire entendre. Et quand on le fait, bah, finalement, on devient agressif. Donc, je ne sais pas comment on peut se faire entendre finalement.
Je me suis rendu compte qu'un homme, bah, il va plus facilement aller parler de ce qu'il fait, de machin, que moi. Quand on dirige, et bah, on va plus remarquer l'homme qui met en avant son travail, et donc on va le rétribuer plus facilement qu'une femme.
De toute manière, j'ai envie de dire qu'une femme, par nature, et malheureusement c'est la société elle-même qui l'impose, on se sent toujours obligé de faire plus qu'un homme. Ça, c'est devenu tellement naturel chez la femme que même si le collègue homme qui est là, qui est bienveillant, on est obligé de faire plus que lui. C'est une manière de survie. Je vais travailler plus. Je ressens ce besoin de faire plus, alors qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas.
En fait, je pense peut-être que ça, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est de savoir... Des fois, quand je travaille avec des gens, je me demande, mais finalement, est-ce qu'ils sont gentils parce qu'ils cherchent quelque chose, ou est-ce que juste ils veulent m'aider dans mon travail? Est-ce qu'ils sont gentils parce qu'ils essayent de me séduire, ou est-ce que juste ils sont gentils parce que je les aide et qu'ils sont contents? Ouais, ça, c'est quelque chose qui est pénible à force. Jamais savoir, est-ce que les gens ont une idée derrière la tête,
Moi, j'ai travaillé avec des hommes et des femmes. J'ai travaillé avec des hommes machos. J'ai travaillé avec des hommes ouverts. Moi, un homme qui me dit « ta place est dans la cuisine », moi, j'ai tendance à lui dire « et toi, mon gars, ta place, elle est nulle part ». Si vous faites le tour déjà de notre ville, vous allez voir qu'il y a des directrices femmes à la ville de Bobigny. C'est des femmes fortes et de caractère. Une femme peut tout faire. Toute femme est belle, toute femme est intelligente, toute femme est compétente et forte.
Il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais moi, je respecte les femmes ». Et là, je leur dis toujours, mais enfin, vous n'allez pas me respecter parce que je suis une femme. En fait, vous me respectez parce que je suis en effet un individu avant d'être une femme. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que vous allez me respecter. J'espère que vous respectez aussi les hommes. Quand on me dit vous êtes une femme et tout ça, ça ne change rien, en fait. On est avant tout tous des individus avec une histoire personnelle. Et notre genre, notre sexe, c'est peu par rapport à ce qu'on, à notre histoire, à tout ce qu'on est. Et donc, c'est vrai que dès que j'entends là, du coup, moi, c'est plutôt un traitement différencié, genre je vais te respecter parce que tu es une femme. Non, tu vas me respecter parce que je suis un être humain avant tout. Donc... Il y a la sécurité dans la ville, mais pour moi, les gros problèmes d'insécurité sont au sein du foyer. Je reçois beaucoup de femmes qui, oui, me racontent des récits de violence et qui sont aussi beaucoup banalisés. C'est-à-dire que oui, mais c'est comme ça.
Bah, vous avez les violences, donc tout d'abord physiques, les violences psychologiques, les violences économiques. Dans le cas où monsieur refuse de donner de l'argent à madame. Il y a les violences administratives. Madame qui souhaite simplement renouveler son titre de séjour, mais que monsieur refuse de lui passer le passeport ou livret de famille des enfants. Donc ça, c'est vraiment des violences administratives. La plupart ne savent pas.
Le retrait d'un courrier recommandé, par exemple. Il se présente à deux, mais c'est l'homme qui prend la parole. Oui, je viens chercher un recommandé. Il présente sa pièce d'identité. Nous, on cherche le recommandé et on voit finalement que le nom sur le recommandé, c'est pas lui en fait. C'est le recommandé est destiné à son épouse. Dans ces cas-là, moi, je parle directement à l'épouse. Oui, bonjour madame, j'ai besoin de votre pièce d'identité. Et je rends la pièce d'identité à l'épouse. Donne-moi ta pièce d'identité. Je dis non, monsieur. Le courrier appartient à madame, donc je suis obligée de parler avec madame. Et du coup, le mec se sent mal à l'aise. Il dit plus rien. C'est une manière de lui dire, c'est une personne complète et qu'elle a des droits aussi. Et à la fin, le mec se vexe et il me sort. Mais vous savez, je suis son mari. Hein. Je dis oui, vous êtes le mari. Vous êtes juste le mari.
T'étais pour courant. S'il te plaît, ouais, ça te dérange pas.
Non, il n'y a pas de problème. C'est Malmouna au téléphone pour toi.
Oui, allô.
Madame, écoutez, je veux aller à la banque, sauf que je ne peux pas parce que monsieur refuse de me donner ma carte bleue. C'est monsieur qui doit aller à la banque retirer de l'argent. Quand je veux faire des courses, je suis obligée de demander à monsieur de me donner de l'argent pour aller faire des courses. Et c'est là, au fur et à mesure de comment elle m'explique les choses, que je lui fais comprendre que ce sont des violences économiques. Elle ne s'en rend pas compte. Hein. Pour elle, c'est normal. Le fait que c'est monsieur qui a accès au compte bancaire, c'est monsieur qui a la carte, c'est monsieur qui a le chéquier, c'est monsieur qui doit faire les courses, c'est monsieur qui doit avoir l'argent. Parce que monsieur aussi habitué en fait madame en fait dans ça pendant des années. Donc cette dame en fait elle considère que c'est normal en fait. Et aussi elles ont tendance aussi à banaliser, à minimiser en fait les choses. Bah écoutez, mon mari refuse que je travaille. Pourquoi? Parce que pour lui je dois rester à la maison, je ne dois pas travailler. Et tout ça c'est comme si qu'on minimisait aussi la femme.
C'est une femme qui est d'abord venue me voir sans papier pour faire un CV, une lettre de motivation. Et elle m'explique qu'elle ne perçoit pas de versement de la CAF parce qu'elle est sans papier, mais qu'elle aimerait faire un courrier pour expliquer qu'en gros, sa situation est très compliquée. Elle a émigré en France avec deux enfants, donc un de ses fils de 5 ans qui est handicapé. Donc elle voulait à la CAF au moins percevoir une aide pour son enfant, ce qui peut, dans le cas de son papier, être accordé. Donc on commence à faire un courrier et elle me présente la situation. Donc à l'époque, elle ne travaillait pas, et notamment le fait que le loyer, comment elle faisait pour payer le loyer. Et en gros, elle me raconte qu'elle est hébergée par quelqu'un. Et elle me dit, vous savez bien pour le loyer. Elle me précise aussi que ce monsieur, dans sa grande bonté, lui donnait 25 euros par mois pour qu'elle achète des protections hygiéniques pour elle et sa fille. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement violent à entendre. Mais surtout, la violence de la non-réponse institutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, en fait. Quand on est une femme sans papier, on est à la merci de n'importe quelle personne, en fait.
En fait, j'ai du mal. Je suis désolée. Hein. C'est parce que quand les femmes se présentent à moi au sein du commissariat, avant de déposer plainte, déjà, elles hésitent. Et donc, c'est là où on me contacte. Ou sinon, je les contacte directement par téléphone parce que souvent, c'est des personnes qui ont fait des mains courantes en expliquant, écoutez, je suis en conflit avec monsieur. Mais elles ne déposent pas plainte parce que justement, dans la main courante, elles n'évoquent pas de fait de violence. Et donc, lorsque je consulte la main courante, je vois que ce n'est pas très clair. Donc, je recontacte la dame. Écoutez, bonjour, j'ai reçu votre main courante. Dites-moi ce qui se passe avec monsieur. Et c'est là où elle se dit, j'ai fait une main courante, on me contacte. Et c'est là où elle commence à se dévoiler un peu. Et c'est là où, quand je vois que madame a envie de s'exprimer, je lui propose un rendez-vous. Et c'est là où elle se présente. Et en général, je me présente bien en tant qu'intervenante sociale. Donc, elles savent que je ne fais pas partie de la police. Donc, c'est rassurant pour elles de pouvoir exposer leurs problématiques.
Installez-vous, attendez, je vais vous chercher une chaise.
Merci. Donc, c'est là où elle se présente au bureau. Quand vous arrivez, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans un commissariat. C'est vraiment des petits poufs de couleurs, en plus côte Afrique, des éléphants, des tableaux de partout. Quand vous arrivez, c'est vraiment un petit lieu. Vous ne pensez pas que c'est un commissariat. Et alors, dès qu'elles arrivent, c'est « Ah, mais c'est trop beau !»« Ah, c'est joli, c'est mignon !» Elles sont contentes, donc ça les rassure déjà. Première approche. Et donc, elles s'installent et c'est là qu'elles expliquent leurs problématiques au domicile. Hein. Que ce sont des violences, parce que c'est aussi des violences.
Ces situations de violence intrafamiliale, elles sont tellement présentes depuis tout le temps qu'elles ont été banalisées. Enfin, la violence que subissent les femmes sur cette planète, c'est là où, moi, ça m'a heurtée, quoi. Mais en fait, c'est là où on se rend compte que c'est institutionnel, que c'est un système et que les femmes sont opprimées par les hommes, qu'on est dans un système de domination.
Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'entendais mes camarades de classe qui disaient « Oui, moi, je veux me marier, je veux mettre le voile. » Moi, je les regardais et moi, je ne veux pas de tout ça. Moi, je veux être indépendante. Moi, je veux travailler. Moi, je ne voulais pas être une femme au foyer. Je ne voulais pas être une maman qui s'occupe que de ses enfants. Le garçon, à l'âge de 14-15 ans, il a le droit de draguer, mais la fille n'a pas le droit d'être draguée. Parce que c'est toujours la faute de la fille, finalement. Pourquoi le garçon a le droit de sortir ? Pourquoi le garçon a le droit de faire des choses, mais pas moi ? C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais une fille et que je dois me battre pour avoir ce que je veux.
C'est flagrant, les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment dans l'éducation. Moi, je ne suis pas allée à l'école parce que j'étais une fille. Il y a beaucoup de femmes qui me racontent ça et qui sont hyper fières que leur petite fille puisse faire des études.
Donc moi, mon histoire, elle est compliquée. C'est que moi, je suis orpheline, en fait. Très, très tôt, j'ai perdu mes parents. J'ai commencé à travailler très, très jeune. Je n'ai pas eu la chance de faire des études. Et même le brevet, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai été recueillie par des gens qui n'ont pas forcément... bienveillé sur moi, on va dire, et J'étais plus une charge qu'autre chose. Donc, non, la liberté, moi, à l'âge de 10 ans, quand mes parents sont morts, j'avais 9 ans et demi, on a fermé la porte, on a dit tu sors plus d'ici, hein. C'est l'école et tu rentres à la maison. Et j'avais rien le droit de faire. Rien. Des fois, je rêvais même d'aller chercher une baguette de pain. Mais je pouvais pas y aller. C'est pas toi qui vas, c'est les garçons. Toi, tu restes là. Tu fais le ménage, tu fais à manger, tu restes là, tu fermes ta bouche. Plus, moi, j'étais recueillie par mon oncle, donc c'était le frère de mon père. Il fallait qu'il montre que voilà, la fille qu'il a recueillie, elle a fait ce qu'il fallait. Elle est restée tranquille jusqu'au mariage. Mais même ça, ils n'ont pas pu le faire bien comme il faut, puisque je suis partie avant. En fait, ça se passait mal avec la dame, avec ma tante qui n'avait aucun lien de sang avec moi. Toujours est-il qu'elle était très, très, très dure. C'était de la maltraitance même. Voilà, de la maltraitance. Et elle, ce n'était pas son affaire que je fasse des études ou pas. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que je dégage de chez elle, quoi. On m'a enlevée de l'école et on m'a envoyée au Maroc pour que je dérange plus, que je fasse plus. Voilà, ils avaient peut-être peur que je fasse des bêtises ou quoi, mais bon. Non, mes frères, eux, ils sont restés. Bien, bien souvent, j'ai pleuré parce que je me suis dit, pourquoi moi, je ne suis pas un garçon ? Une fille, ça ne fait pas ce qu'elle veut. Une fille, ça ne fait pas ce qu'elle veut. Il faut qu'elle soit toujours entourée, il faut toujours qu'elle soit accompagnée. Voilà, elle ne peut rien faire toute seule. Mais je suis partie pour rejoindre ma grand-mère au Maroc, où je suis restée là-bas 3 années. Donc, je me suis mariée, puis je suis revenue avec mon mari.
Je pense que quand j'étais petite, c'est quelque chose, les injustices d'être une petite fille par rapport aux petits garçons, c'est quelque chose qui me marquait vachement. Moi, j'avais envie de jouer au foot et j'avais pas le droit, en fait, parce que ça se faisait pas de jouer au foot quand moi j'étais petite. On me disait que je devais porter des jupes, que machin, et j'aimais pas ça. Donc, les injustices d'être une petite fille par rapport à un petit garçon, quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui me révoltait beaucoup. Moi, je pense que vraiment, les petits garçons sont éduqués à être mis en avant. Moi, j'ai fait ça, c'est super. Et une petite fille, c'est normal ce qu'elle fait. Donc, elle n'est pas mise en avant.
Si j'étais homme, je n'aurais pas peut-être le même parcours. Parce que je suis femme, que ça a pris 20 ans de ma vie. C'est parce que je suis femme que je me suis retrouvée mère célibataire. Un homme, même s'il divorce, ça ne change rien dans sa vie. Parce que lui, il a son travail, il l'a conservé. Il n'est pas obligé d'aller faire des demandes d'aide à la CAF.
Alors moi, j'ai rêvé d'être un garçon, on va dire, un ado, mais pas un homme. C'était pendant mon enfance et mon adolescence que ça a été très difficile. Je pense que toutes les femmes, dans un coin de leur tête, rêvent d'être un homme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont moins de galères, les hommes. Physiologiques, ils ont moins de problèmes. C'est vrai que des fois... Être un homme, c'est plus facile. Mais après, bien sûr, y a des choses qui sont difficiles quand on est une femme.
Une femme, avant de sortir de chez soi, avant de mettre une mini-jupe, elle se pose des milliers de questions. Est-ce qu'on va mal me juger parce que je suis maman ? Est-ce que je vais être pointée comme femme facile parce que je porte une jupe ? En fait, on a tellement de questions qui se passent dans nos têtes que finalement, nous, femmes, on doit donner le bon exemple à ses enfants. Est-ce qu'on va me voir avec un collègue prendre un verre, on va aller voir mes parents et dire « Pourtant, j'ai 45 ans, mais l'honneur chez nous, c'est sacré. » Plus maintenant. Maintenant, je fais ce que je veux, quand je veux et... Que ça se sache ou pas, c'est pas mon problème. Les gens peuvent juger, les gens peuvent parler. Ce n'est plus un problème pour moi. En fait, j'essaye de transmettre le message à ma fille. Tu fais ta vie pour toi-même, pas pour les autres.
C'est très dur parce qu'après, nous, la femme travaille à l'extérieur et travaille à la maison. On a un deuxième travail le soir quand on rentre à la maison.
Comment je fais pour concilier ma maternité avec un bébé de 7 mois et ma vie professionnelle ? C'est très dur. c'est source de stress. On va dire que c'est plutôt une sensation de courir après le temps, plus qu'une réussite. Et donc, en fait, je constate que je me mets beaucoup en retard pour essayer d'être un peu sur tous les fronts. Je fais en sorte de voir mon fils. Donc, moi, c'est pour ça, à 18h, j'essaye de partir pour le voir, mais j'ai beaucoup de réunions tardives. Donc, ce moment, je ne peux pas être fatiguée, je ne peux pas être là.
On se débrouille avec les nourrices au départ, et puis après, l'école... Les laisser à la garderie du matin, à la garderie du soir. Puis on n'a pas le choix, ils font avec et nous aussi.
La vie, elle a fait que je me suis mariée, je me suis retrouvée après enceinte. Donc, ça a été compliqué de retrouver donc, un poste sur ce métier-là. J'ai dû me séparer du papa de la petite et du coup, il me fallait absolument travailler. Donc j'ai pris n'importe lequel. Voilà. Il a fallu que la subvienne aux besoins de moi et de ma fille. Ça a été très difficile parce que je suis retournée chez mes parents, revenue chez eux, et c'est très compliqué de retourner chez ses parents avec un enfant. On perd tous ses repères, hein. C'est pas pareil. J'avais la rage, donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un travail pour m'en sortir. Il n'y a pas eu d'aménagement. Moi, dès que j'ai trouvé un poste, il a fallu que je me débrouille toute seule. Alors après, on s'arrangeait, moi et des copines qui habitaient dans la cité et qui avaient le même travail que moi. Et pareil, qui étaient seules. Voilà. Si elle avait le poste du matin, moi, je pouvais garder sa fille, vous voyez ce que je veux dire? Et vice-versa. Quand on devient mère, ça n'a rien à voir que quand on est jeune. Quand on est jeune, on a un peu la tête un peu ailleurs. C'est pas... Et quand vous devenez mère, vous avez une responsabilité et vous dites là, je n'ai pas le droit à l'erreur.
Quand je suis devenue mère, j'ai décidé d'arrêter le travail pour m'occuper de ma fille. Parce que je n'avais pas de famille ici, j'étais seule jusqu'à ses 3 ans. De là, j'ai repris le chemin du travail. Et j'ai fait des petites missions, en fait. Moi, ma philosophie, c'était de foncer. Je n'ai rien à perdre. Qu'on me dise oui, parfait, ça me fait de l'expérience. Si on me dit non, tant pis, j'aurais essayé.
Nous, fonctionnaires, on aurait bien aimé avoir des lieux de garde exclusivement pour nos enfants. Parce que c'est vrai que nous, on garde les enfants des autres. Mais même les nôtres, il faut chercher à les faire garder. Et des fois, ce n'est pas évident, on ne trouve rien. Donc, moi, je travaille à 80%. Donc, un aménagement a été fait, justement, autour de l'handicap de mon fils. C'était soit ça, soit je quittais mon travail. Très bien. Je n'ai pas voulu arrêter parce qu'il est hors de question que j'arrête de travailler. Vu que la plupart des femmes, des mamans avec un enfant en situation de handicap, beaucoup quittent leur travail pour s'occuper intégralement de leur enfant. J'ai pris mon fils sous les bras et puis j'ai commencé à courir partout, droite à gauche, pour essayer de trouver une solution. Il a fallu attendre presque ces 3 ans pour avoir un diagnostic qui m'annonçait qu'il était autiste. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais arrêter de travailler? Je ne savais pas, donc je me faisais des films. Je voyais tout noir, hein. C'était tout s'écroule. Mais bon, on a quand même surmonté tout ça, on a trouvé des solutions. En tout cas, si ça change ou si je ne peux plus faire comme ça, j'arrêterai de travailler, je m'occuperai de mon fils. C'est nos enfants avant tout.
Oui, je suis maman célibataire, mais je suis avant tout une femme déterminée et une femme qui veut s'en sortir. Je n'ai jamais rien caché à ma fille. Des fois, on nous dit « oui, il ne faut pas pleurer devant l'enfant, vous allez le traumatiser ». Moi, je dis que non. Il faut montrer ses faiblesses à son enfant. Il faut montrer qu'on est fragile aussi. Ma fille, elle a connu toutes mes peurs, elle connaît toutes mes angoisses, elle connaît ma détermination. Moi, la première fois que ma fille m'a fait un compliment, elle avait quoi? Elle avait 7-8 ans. Et elle me dit, maman, je suis fière de toi. Et du coup, c'était le premier, maman, je suis fière de toi. Et donc, ça m'a boostée et j'ai dit, oui, je suis sur la bonne voie. Je donne un bon exemple à ma fille. Voilà, ma fille connaît tout sur moi et je pense qu'elle-même, elle deviendra, j'espère, une femme forte et combattante.
Moi, j'apprécie la sororité qu'on peut porter. Je trouve qu'entre femmes, on a une forme d'empathie et une vraie connaissance de nos contraintes personnelles. Et moi, j'aime beaucoup mon collectif qui est très féminisé. Il est solidaire et il travaille avec beaucoup de bienveillance, d'humour. Et on partage nos problématiques personnelles et professionnelles. Donc ça, je trouve que c'est assez riche.
J'ai beaucoup d'usagers qui se présentent. Elles sont là. « Ah, madame, je ne travaille pas. » Ou « J'ai 2 enfants, c'est compliqué pour moi. » Sans leur expliquer, ma vie personnelle, je leur fais comprendre qu'on peut tous y arriver, tout simplement. Parce que des fois, je me dis, mais si elles savaient par où je suis passée pour arriver juste là où je suis aujourd'hui, elles-mêmes, elles diraient, mais c'est pas possible. Et donc, je les encourage.
Je souhaite ça à toutes les femmes, d'être heureuses dans leur vie, d'être épanouies, de faire ce qu'elles veulent faire dans leur vie et qu'on voilà, on choisisse pas pour elles. Que ce soit leur libre choix et puis qu'elles réussissent et qu'elles aient les mêmes avantages que les hommes. Voilà, tout ce que vous voulez, voilà, moi, c'est, ouais, c'est tout.
Considérant les évolutions sur la situation des femmes à Bobigny, il y a du changement, mais le combat n'est jamais terminé. En matière d'égalité des droits, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais se relâcher. Donc voilà, je pense qu'on va dans le bon sens, mais par contre, je pense que le travail ne sera jamais fini.
Dans mon bureau, j'ai un petit tableau et j'ai fait une petite phrase. Ma phrase, en gros, elle veut dire qu'on peut se faire comprendre par une personne qui a vécu ou qui est passée par le même chemin que vous. Une personne lambda va passer à dire « Ah, c'est joli le tableau !» mais ne se rend pas compte qu'en fait, ce tableau, c'est mon tableau et que c'est ma phrase en fait, par rapport à mon vécu que j'ai affiché. En fait. Vraiment pour faire comprendre que dans la vie de tous les jours, on a tous des difficultés et que à partir du moment où vous avez l'écoute d'une autre personne, hein, c'est l'écoute le plus important. Vraiment l'écoute et rassurer qu'on puisse avancer.
Quand on est opprimé, bah, je pense qu'on a beaucoup d'atouts. En tant que femme, on va plus prendre des soins des autres, bah, on écoute plus les autres. Donc je pense qu'on a aussi une vie plus riche. Et donc, oui, de prendre conscience aussi de ses atouts, de cette éducation et d'essayer de la transformer pour aussi, nous, avoir le pouvoir.
C'était Meuf 3, un documentaire de Louise Bréon, Basma Nasser et Isota Monfrin. Une production Making Waves pour la ville de Bobigny. Réalisation et musique, Clément Nouguier. Mixage, Dylan Lecor. Coordination éditoriale, Mohamed Ben Saber. Merci à Naïma, Karima, Morgane, Maïmouna, Marine, Fadila, Victoire et Cécile pour la participation.
Et merci à la ville de Bobigny d'avoir permis ce projet en organisant la prise de parole des agentes.